Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, coup de projecteur sur le Yémen avec la fin des consultations à Genève et la situation humanitaire. Le HCR appelle la République dominicaine à ne pas déporter les personnes dont la nationalité est en doute. L'ONU déplore le meurtre de 9 Afro-Américains à Charleston, aux États-Unis. L'UNICEF dénonce la prise pour cible d'une école au Burundi. L'Assemblée générale instaure la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles dans les conflits. Enfin, nous reviendrons sur les accords de libre-commerce. Les consultations sur le Yémen, placées sous l'égide de l'ONU, touchent à leur fin ce vendredi au Palais des Nations à Genève. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen a continué vendredi de rencontrer les belligérants séparément et tenter d'obtenir un accord sur le respect d'une pause humanitaire à la faveur du début du Ramadan et sur des cessez-le-feu locaux. Alpha Diallo.
Selon le porte-parole de l'ONU à Genève, Ahmed Fawzi, l'objectif principal d'Ismaël Ould Cheikh Ahmed est d'arriver à un accord sur la cessation des hostilités. L'envoyé spécial met donc les bouchées doubles afin que les deux parties conviennent d'un mécanisme non seulement pour surveiller la cessation, mais pour acheminer de l'aide aussi rapidement que possible. Concernant la poursuite des consultations, le porte-parole de l'ONU à Genève rappelle que la délégation gouvernementale yéménite a déjà réservé ses places de retour vers Riyad pour samedi et les Houthis prévoient de regagner Sanaa dimanche. Les Nations Unies espèrent que le cadre établi lors de ces consultations de Genève puisse contribuer à restaurer la confiance entre les parties, augmenter les chances de mise en œuvre des différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de veiller à ce que tout compromis consenti par une partie ne soit pas utilisé à son avantage par l'autre partie.
À noter qu'à l'issue de ces consultations, l'envoyé spécial pour le Yémen s'est dit convaincu que la tenue d'une série de pourparlers supplémentaires permettrait aux parties de s'accorder sur les termes d'un cessez-le-feu. Il n'y a en principe aucun désaccord là-dessus. Il faut juste des consultations supplémentaires, a notamment affirmé Ismaël Ould Cheikh Ahmed. Le Haut Commissariat pour les réfugiés appelle la République dominicaine à ne pas déporter les personnes dont la citoyenneté dominicaine a été mise en doute par un décret adopté en 2013 par la Cour constitutionnelle du pays. Selon ce décret, les personnes nées sur le sol dominicain devaient régulariser leur statut avant la mi-juin. Selon le HCR, des dizaines de milliers de personnes sont concernées, pour grande majorité des personnes d'origine haïtienne nées sur le sol dominicain. Plus de 200 000 apatrides résident actuellement en République dominicaine. On écoute Adrian Edwards, porte-parole du HCR.
Le HCR est préoccupé par la perspective que des personnes soient poussées vers Haïti même si elles ne sont pas considérées comme ayant la nationalité de ce pays. Il est de la plus haute importance que les autorités dominicaines agissent de manière à ne pas créer une nouvelle situation de réfugiés. Les autorités dominicaines ont annoncé qu'elles établiront des procédures de contrôle pour toutes les personnes qui risquent d'être déportées. Nous avons conseillé aux autorités de prendre en considération la maîtrise de l'espagnol et d'autres facteurs pour déterminer s'il existe une forte probabilité qu'une personne soit née et ait vécu toute sa vie en République dominicaine.
L'ONU déplore le meurtre de 9 Afro-Américains dans une église à Charleston, en Caroline du Sud, jeudi. Dans un communiqué, des experts ont condamné cette attaque et ont recommandé aux autorités de prendre des mesures urgentes pour éradiquer les actes violents commis avec des armes à feu, ainsi que les crimes racistes. Mireille Fanon-Mendez France préside le groupe de travail des Nations Unies sur les peuples de descendance africaine. Elle réagit suite à cette fusillade.
Forcément, sur un plan humain, c'est une chose absolument horrible, qu'on en arrive à tuer des personnes en raison de leur ethnicité, de leur origine, de leur religion ou de leur statut social. C'est une violation grave des droits humains. Et à ce titre-là, le groupe de travail, non seulement parce qu'on a un mandat sur les personnes d'origine africaine et africaine, mais aussi parce que, plus généralement, nous sommes des personnes qui défendons fondamentalement les droits humains, nous sommes atterrés de ce qui s'est passé.
Au Burundi, l'UNICEF dénonce une attaque à la grenade qui a pris pour cible un groupe d'enfants qui jouaient au ballon dans une cour d'école, blessant un garçon. Cet incident a été perpétré à Bujumbura, la capitale, le 16 juin, le jour même de la journée de l'enfant africain. L'école était fermée pour l'occasion, mais son terrain de jeu demeurait accessible. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
C'est une agression inquiétante qui a lieu dans une école, donc dans une zone de paix et de sécurité, normalement, qui est un refuge pour les enfants. À la suite de cette attaque, tous les enfants du quartier ont été confinés dans leur maison par leurs parents. La majorité des écoles à Bujumbura, de la capitale, sont toujours fermées. Alors que les troubles continuent au Burundi, les enfants restent toujours en danger. Certains enfants ont été tués, d'autres ont été détenus. L'UNICEF rappelle que les enfants ont le droit d'être protégés en toutes circonstances et ne doivent jamais être ciblés. Et les écoles doivent être respectées en tant que zone de paix et de refuge pour les enfants.
It is so decided.
Le 19 juin sera dorénavant la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles dans les conflits. Il en a été ainsi décidé à l'Assemblée générale des Nations unies ce vendredi par le biais d'une résolution parrainée par l'Argentine et les représentantes spéciales du secrétaire général sur les violences sexuelles dans les conflits et sur les enfants et les conflits armés. Une journée qui a pour objectif de sensibiliser à ce fléau qui affecte des milliers de personnes afin de l'éliminer et de venir en aide aux victimes, comme l'a précisé la représentante permanente de l'Argentine, Cristina Perceval.
Nous avons évité les éléments de division et les références aux cas spécifiques. Ceci n'est pas un jeu politique, c'est un cri éthique à l'humanité. Ça suffit. Assez des violences sexuelles dans les conflits. Nous devons nous engager à défendre pleinement l'intégrité de la vie humaine, nous engager à travailler sincèrement et sans relâche pour prévenir, combattre et éradiquer ce fléau pour ces femmes, ces filles, ces garçons, les pauvres, les minorités ethniques et religieuses et les autres personnes vulnérables dont certains pensent que les vies ne valent rien. Nous sommes ici pour leur dire que vos vies nous sont importantes.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec la crise au Yémen. Les Nations Unies ont demandé ce vendredi à Genève 1,6 milliard de dollars pour pouvoir aider les quelque 11,7 millions de personnes les plus affectées par le conflit qui sévit dans le pays. La coordination des affaires humanitaires de l'ONU craint une catastrophe imminente dans le pays. De son côté, le Programme alimentaire mondial a besoin mensuellement de 43 millions de dollars pour financer ses opérations au Yémen. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a joint la porte-parole du PAM, Elisabeth Birs.
La crise humanitaire s'aggrave, la crise alimentaire s'accroît également, les familles les plus pauvres font face à une situation de crise alimentaire grave. D'après une nouvelle étude, il y a plus de 6 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire sévère. Nous étions à 4 300 000 personnes dans ce cas. Il y en a plus de 6 millions, c'est-à-dire un Yéménite sur cinq est en état d'insécurité alimentaire sévère.
Et pour le PAM, vous avez besoin de 40 millions de dollars par mois pour vos opérations?
Le conflit a fait que l'accès aux populations devient de plus en plus difficile, que les besoins sont en train d'augmenter terriblement au Yémen, donc il faut augmenter les contributions. Nous sommes passés à 1,6 milliard. Et le programme alimentaire mondial, uniquement pour actuellement essayer d'atteindre près de 2,5 millions de personnes, a besoin de 43 millions de dollars par mois pour ses opérations. Mais aussi, nos demandes de financement vont augmenter. On estime qu'il y a plus de 12 300 000 personnes qui sont en état d'insécurité alimentaire. Il était de 10 millions avant le conflit. On voit que la situation s'aggrave de jour en jour et que nous devons accroître nos opérations.
Vous dites que la situation s'aggrave. Quels sont les signaux qui le montrent sur le terrain?
On voit que sur les 22 gouvernorats que compte le Yémen, 10 font partie de la catégorie en urgence au niveau de la sécurité alimentaire. 9 autres gouvernorats sont carrément au niveau crise. Il y a 5 niveaux qui sont répertoriés dans la classification. Actuellement, on voit que la phase 4 est un niveau d'urgence. Eh bien, ces 6 millions de personnes au Yémen sont dans cette phase d'urgence. Et le prochain stade est la phase 5 qui, lui, est la famine. Nous devons éviter une catastrophe de la faim. Nous avons réussi à le faire l'année dernière, mais le problème maintenant est le conflit et le manque d'accès. Il faut absolument éviter que l'on tombe dans les mois qui viennent dans une situation de phase 5, c'est-à-dire de famine.
À cet égard, il y a ces consultations de Genève sur les mains qui se déroulent actuellement à Genève. Et parmi l'un des sujets, ils ont parlé de pause humanitaire. Mais vous, au niveau des humanitaires sur le terrain, comment vous faites pour contourner ces difficultés, ces défis logistiques?
Le programme alimentaire mondial essaie d'aider à chaque fois qu'il le peut, c'est-à-dire distribuer quand la situation de sécurité le permet. Quand il y a eu la pause humanitaire de 5 jours, cela nous a permis, à nous et à nos partenaires sur le terrain, d'apporter de l'aide dans des endroits où nous n'avions jamais pu travailler auparavant. Nous avons des activités nutritionnelles dans les centres de santé qui sont opérationnels et en mai, nous avons aidé 50 000 enfants de moins de 5 ans avec les programmes nutritionnels. Mais il faut continuer à accroître nos opérations. Les barrages, l'insécurité, le fait que les transporteurs de nos camions sont de plus en plus réticents parce que c'est leur propre sécurité aussi qui est en jeu et également justement le contenu des camions, les communications qui sont difficiles, des problèmes d'Internet, les travailleurs humanitaires au Yémen sont dans une situation très difficile et ce sont des défis.
Alors que le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement sont en cours de négociation, les bienfaits des accords d'investissement et de libre-échange ont été remis en question par un groupe d'experts de l'ONU récemment. Souvent considérés comme un moteur important pour la création de nouvelles perspectives économiques, ces échanges pourraient, selon eux, avoir un impact négatif sur le respect des droits de l'homme. Pour en savoir plus, nous avons parlé avec l'un de ces experts, Alfred Desayas, expert indépendant pour la promotion d'un ordre international démocratique et équitable.
Ontologiquement, un État est là pour régler les affaires de la population sous leur juridiction. C'est-à-dire, il faut avoir législation sur la santé, sur le travail, sur l'environnement, pour protéger la population, par exemple, de... dumping toxique, ce qui arrive très souvent. Le problème date des années 90. Il y avait une certaine euphorie après la fin, soi-disant, de la guerre froide. Et on pensait, nous avons gagné, nous allons maintenant donner au monde le grand bénéfice du libre commerce et on va avoir davantage de production et il y aura davantage de travail.
C'est des bénéfices qui ne se sont pas avérés.
Il y a eu un bénéfice, mais pour les grandes entreprises, pour les transnationales, pour les investisseurs, ils ont gagné énormément. L'abîme entre les super riches et les pauvres est encore plus profonde aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Il y a 3200 traités bilatéraux et les traités bilatéraux ont presque toute cette procédure d'arbitrage qui est une procédure vraiment bizarre, totalement séparée, indépendante de la juridiction nationale. C'est une procédure souvent secrète. Le problème, c'est que puisqu'on a créé une autre juridiction, un arbitrage secret, les arbitres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent ignorer les lois nationales, ignorer les décisions des cours suprêmes nationales, ignorer la constitution des États, et ils décident qu'ils vont interpréter le concept de expropriation. On a le cas de la transnationale française Veolia, qui a une plainte contre l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte a augmenté le salaire minimum. C'est-à-dire que ça, c'est une expropriation. Alors, si le salaire minimum monte, alors comme conséquence, les profits de cette transnationale seront moindres. C'est-à-dire c'est une expropriation du profit.
Ces accords, en fait, permettent aux sociétés privées qui ont des intérêts économiques de passer outre les lois nationales et la réglementation nationale?
Pas seulement ça, même des décisions de la Cour suprême de plusieurs États, ils s'en foutent de la juridiction nationale. Et le problème, c'est aussi la composition de tribunaux d'arbitrage. Il s'agit, vous savez qu'une heure, d'un avocat, coûte 1 000 $. Alors, vous avez un risque capital pour les États, surtout pour les États en voie de développement, qui n'ont pas l'argent pour risquer un procès contre une grande transnationale.
Et c'est avec Alfred de Sayas que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.